pour vous, voici Page après page avec Gisèle. Une rencontre intimiste avec un auteur.
And Marichal Anzonzo Kani, Claude Okoyaya Raisa, Thierry Ngolali, Sandrine Ngolali.
Herbi Makasela, loku moi parisien, chate de crocote, zonga mbokotona, pater mesita, oh patron samé, souci nanga se bozonga mboka.
Bouddha de Manuka, papa bonheur, Giovanni Pino. Le président Gaston Oyo, papa Stona. Fabrice Ngombe, petit mais costaud, Mesme Achoussou.
Yo,
Chers auditeurs, vous êtes dans Page après Page et je vous propose aujourd'hui de voyager à nouveau. Nous repartirons au Congo, mais nous voyagerons un petit peu en Europe également. Je reçois Ignace Mbani, qui est professionnel en évolution des carrières et acteur de l'intermédiation entre l'offre et la demande de travail. Et c'est en lui aujourd'hui que nous rencontrons l'auteur. Bonjour Ignace.
Bonjour Gisèle.
Vous nous dépaysez à nouveau avec cette musique. Pourquoi vous avez choisi cette musique ?
J'ai choisi cette musique parce qu'il s'agit d'une musique qui colle avec l'esprit du livre. Cette musique rappelle l'histoire d'une personne, un jeune Congolais, qui est allé étudier en Europe et pour n'avoir pas rencontré le succès escompté dans ses études, n'a plus voulu revenir au pays parce qu'il pense qu'en revenant sans avoir gagné les diplômes pour lesquels il était parti en Europe, il se retrouverait dans une situation d'échec et d'humiliation.
Oui.
Donc cette musique-là parle d'un étudiant congolais qui est dans cette situation, ce qui rappelle à peu près la situation du personnage principal du livre.
Oui, en tout cas c'est une très belle musique. On est au Congo pour commencer votre livre. On commence donc du Congo jusqu'en Europe. Et ce qui m'a fait rire, alors je ne sais pas si vous avez trouvé ça, si vous avez fait des recherches pour ça. J'ai souri et même à la limite rigolé parce qu'un avion, c'est un appareil volant imitant l'oiseau naturel. C'est une jolie formule. Vous la connaissiez, vous l'avez recherchée. Comment ça s'est passé, ça ?
Non, mais ça, je le sais. L'avion.
Oui.
Appareil volant imitant l'oiseau naturel, c'est exactement la vraie définition de l'avion.
D'accord.
C'est comme on dit le sida, le syndrome immunodéficience acquise.
Oui.
Ça, je le sais depuis que j'étais au collège, donc il y a très longtemps.
Et moi, ça m'a fait sourire parce que je ne connaissais pas cette expression.
Mais vous voyez qu'on apprend tous les jours.
Tous les jours. Dans votre livre, il me semble que la musique est un fil conducteur à votre roman, oui ou non ?
C'est l'un des fils conducteurs, oui. Mm-hmm. Parce que le personnage principal est un grand amateur de musique.
Oui. Au Congo, il y a des magasins d'État, l'école de la République qui forment les enfants. Est-ce que c'est très discipliné au Congo, l'éducation ?
Ça a été très discipliné et ça a été vraiment un secteur dans lequel l'État, dans les années 70 et jusqu'à 90, mettait beaucoup de moyens parce que les dirigeants de l'époque pensaient que l'école, c'était la clé qui ouvrait les portes aux libertés
et
à l'instruction. Donc du coup, le gouvernement mettait beaucoup de moyens. C'était même avant les années 70. Et aux années 90,
oui.
Il y avait à peu près 95% d'alphabétisation au Congo.
Oui.
Parce que c'était presque un exploit pour les pays d'Afrique noire qui étaient sortis de la colonisation. Il y avait encore si peu.
Voilà. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai bien retenu parce que finalement, ils ont raison. Parce que c'est justement à l'école qu'on apprend à devenir des futurs adultes et en même temps des futurs citoyens. C'était bien vu quand même.
Ça a été bien vu. De toute façon, l'idéologie du pays ne pouvait être autrement.
Oui.
C'était un pays qui prenait le socialisme scientifique. et qui pensait que tous les citoyens devaient avoir les mêmes droits. Et oui, pour que les gens puissent connaître leurs droits, il leur faut un minimum d'instruction. Et comme également il y avait une administration à mettre en place, parce qu'on sort, comme je vous dis, de la période coloniale, mm-hmm, où l'essentiel des administrations, c'était même pas, oui, c'était un noyau d'administration, ne se cantonnait essentiellement que dans les grandes villes.
Oui.
Donc dans les villages, il n'y avait pas d'instituteurs, pas d'hôpitaux, il n'y avait pas d'état civil, donc il fallait former au plus vite un maximum de cadres,
oui,
pour qu'ils puissent occuper ces espaces-là qui étaient vides.
Oui.
Ces secteurs où on avait vraiment besoin de personnes qui connaissaient au moins lire et écrire.
Oui. Vous nous dites aussi dans ce livre que tout le monde cède au Congo, c'est-à-dire que c'est entre voisins, entre amis, entre familles. C'est vraiment important cette aide pour les adultes, mais aussi pour les enfants qui sont des adultes en devenir.
C'est une solidarité, je dirais même pas qu'elle est institutionnelle, c'est une solidarité qui tire ses origines peut-être des temps assez anciens.
Mm-hmm.
C'est comme ça que la société s'organise autour de la famille, puis du quartier, et
oui,
puis de l'arrondissement, après de la ville, souvent.
Oui.
Les personnes s'entraident. C'est un univers où, par exemple, les enfants appartiennent presque à la société. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans la rue, voir un enfant qu'on ne connaît pas, qui en train, si on, quand un adulte se rend compte que l'enfant est en train de faire une bêtise,
oui,
il peut ramener l'enfant à la raison. Il, la personne ne passera pas, il s'arrêtera pour faire, pour expliquer à l'enfant que, ce qu'il fait n'est pas bien.
Ah oui.
Oui, sans que l'enfant soit, soit un enfant de la famille, la personne adulte pourra, oui, s'arrêtera pour dire à l'enfant, écoute, ce que tu fais là, ce n'est pas bien, et lui dira pourquoi c'est pas bien, il lui expliquera.
Oui.
Moi, quand j'étais enfant, ça m'arrivait souvent. Parfois, c'est des gens qui me disaient, tiens, pourquoi tu fais ça? Bon, tu le fais, mais je vais le dire à ton père. Parfois, je prenais une engueulade. Et quand j'arrivais à la maison, mes parents, quand ils étaient au courant, souvent,
oui,
on les tenait au courant, ben, ils revenaient dessus pour m'expliquer que la personne qui m'avait fait des remontrances avait raison, parce que je n'avais pas le droit de faire ceci ou de faire cela.
Oui.
Et en dehors de ça, quand les personnes n'ont rien, on peut se retrouver, se faire aider par les voisins parce qu'on n'a pas eu à manger. Le voisin, quand il peut l'avoir soupçonné, il peut t'appeler souvent et dire, bah, passe à la maison, il y a tes frères qui t'attendent. C'est que la personne appelle tes frères,
oui,
c'est souvent juste ses enfants. Parce que comme vous habitez dans le voisinage, ils vous considèrent comme des frères. Il va dire, viens à la maison, il y a tes frères qui t'attendent. Puis quand tu te présentes, c'est parfois l'heure de repas, il te sert à manger,
oui,
comme si tu étais un membre de la famille. Après ça, chez nous, de ce que je connais, il n'y a par exemple pas de maison de retraite. Les personnes âgées restent dans la famille où ils sont pris en charge par les enfants ou leurs petits-enfants.
Nous allons ouvrir votre roman. Il s'appelle « Même les belles lumières s'éteignent ». C'est aux éditions Chiado, paru en 2016. On est en partance pour la Bulgarie. C'est des jeunes gens, des jeunes filles qui sont bien habillées, sauf Jimmy. Jimmy qui est votre héros. Est-ce qu'il est rebelle, cet ado? Est-ce que c'est son génie qui le laisse...
Je ne sais pas s'il est rebelle, je ne sais pas si c'est un insoumis,
oui,
mais ce que je peux penser de lui, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui rentre dans le moule.
Ah oui,
il a sa façon de faire de voir la vie, de voir le monde, il a vite et qu'il la sent, sans faire trop attention à ce qu'on peut penser de lui.
Oui.
Il vit comme il entend, c'est-à-dire il rentre pas dans le moule, calquant sa manière d'être ou de s'habiller sur les personnes qui l'entourent.
Oui.
En fait, c'est Jimmy, c'est un esprit hors pair.
Oui, il est indépendant aussi. Qui est-il vraiment, ce Jimmy? Parce que sa maman n'a pas les moyens énormes pour lui faire suivre l'école.
Jimmy est comme les autres enfants de cette époque-là. Effectivement, les gens n'avaient pas assez de moyens de subvenir aux dépenses de leurs enfants pour les amener à l'école. Heureusement encore qu'à cette époque, l'éducation, l'école, du moins sur tout ce qui concerne les fournitures scolaires, l'éducation était gratuite.
Mm-hmm.
Quand Jimmy allait à l'école, l'institution lui fournissait les craies, lui fournissait les livres, les encriers et l'encre, les crayons et les livres.
Ouais.
En fait, ce que sa mère pouvait faire au départ, c'était lui acheter la tenue, parce qu'il y avait une tenue scolaire, pour ne pas distinguer,
oui,
les enfants entre ceux qui pouvaient sortir des familles aisées et ceux qui étaient issus des milieux modestes, la République avait décidé que tous les élèves se rendent à l'école habillés de la même façon. L'effort que la mère de Jimmy pouvait faire, en fait, c'était lui fournir sa tenue scolaire.
Est-ce qu'il voulait rester chez lui, Jimmy, ou est-ce que ça lui faisait quand même plaisir d'aller étudier en Europe et par ce biais-là aussi de découvrir un autre pays?
Jimmy a fait les études et son idée a évolué. Au départ, il pensait que, comme le meilleur administrateur de son village, c'était un instituteur. Jimmy a rêvé de devenir instituteur.
Mmh.
Et au fil de ses études, il a découvert qu'il y a des profs qui étaient des grands cadres. Et quand il a son bac, on commence la direction d'orientation et des bourses, leur parle de la possibilité d'aller étudier en Europe. À l'époque de Jimmy, ce n'étaient pas les parents qui payaient, qui envoyaient leurs enfants à l'école pour aller continuer leur scolarité en Europe.
Oui.
La plupart des temps, ils n'en avaient pas les moyens. Et à l'époque de Jimmy, tous les bacheliers bénéficiaient de la bourse de l'État congolais.
Oui.
Soit ils avaient la bourse pour étudier à l'université au Congo, ou ils avaient la bourse pour aller étudier en Europe.
Mm-hmm.
Et c'est la direction d'orientation et des bourses qui décidait en fonction des choix des élèves qui étaient plus ou moins respectés,
oui,
ou bien de leur capacité à suivre des grandes études pour donner la bourse aux uns et aux autres. Et on est dans une époque où, comme je vous ai dit au début, le Congo s'était orienté vers la voie du socialisme scientifique, donc du communisme.
Oui.
Le pays avait pour allié les pays qu'on appelait les pays du bloc de l'Est,
c'est-à-dire
l'URSS et ses satellites,
oui,
qui avaient l'habitude de proposer au Congo des bourses que l'État congolais pouvait donner à ses étudiants.
Oui.
Et c'est d'une de ces bourses-là que Jimmy va bénéficier pour aller faire les études d'ingénieur en électronique en Bulgarie.
Mm-hmm. Il y a Joël qui est un personnage aussi principal à côté de Jimmy. Qui est Joël?
Quand Jimmy part du Congo, il ne connaît pas Joël. Ils ont voyagé dans le même vol qui transite par Moscou avant de mettre le cap sur la Bulgarie. Et en fait, Joël, c'est aussi un jeune bachelier congolais qui a eu aussi un bac de la série scientifique, un bac C, mm-hmm, et qui va lui aussi pour étudier, faire, ils étaient deux, pour aller étudier l'électronique dans la même école que Jimmy.
Oui.
Et ils ne se rencontrent qu'à l'aéroport de Moscou, où une personne qui a voyagé à côté de Joël va le présenter à Jimmy.
Oui. Malgré tout, dans cette nouvelle école en Bulgarie, il s'intègre, et il s'intègre surtout à travers le sport et les bonnes notes. Est-ce que c'est vraiment un match de sport qui a fait cette discorde dont Jimmy va être la victime finalement?
Le match de la discorde, c'est un échappatoire.
Oui, parce qu'il y a les filles en dessous.
Jimmy joue bien au foot. Le match oppose les nationaux, c'est-à-dire
les
jeunes bulgares,
oui,
aux autres jeunes qui viennent de par le monde.
Oui.
Ils sont asiatiques, sud-américains, africains.
Oui.
Donc ils se réunissent, ils forment deux équipes. Le match est censé être un match de cérémonie d'accueil. Mais ça tourne assez mal parce que les personnes, dès le départ, ils ont quelques suspicions sur Jimmy. Parce qu'ils pensent qu'ils sont autour de Jimmy, tournent des filles que les jeunes bulgares convoitent.
Oui. Vous mettez également dans ce livre, vous y revenez parce que c'est un petit peu chez vous, oui, c'est normal que vous mettiez toujours un petit point sur le racisme, mais vous parlez également de la drogue, de l'Église. Est-ce que c'est un tout qui gaspille l'entente des peuples? Parce qu'à la page 119, je vous cite, « Lorsqu'ils sont arrivés chez nous, nous avions les terres. Ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsqu'on les a ouverts, ils avaient nos terres, nous avions la Bible. » C'est terrible, ça, cette manipulation d'un peuple comme ça.
Mais parce que je pense que dans une émission précédente, je vous parlais déjà,
oui,
de l'histoire du pouvoir.
Oui.
Les gens, ils sont vers la voie du pouvoir et pour la voie du pouvoir, ils essaient de soumettre. On peut soumettre physiquement, on peut soumettre aussi par la manipulation.
Oui.
Quand les gens vous apprennent à prier, je ne dis pas que toutes les personnes qui lisent la Bible ou qui lisent le Coran le font dans l'intention de manipuler.
Oui, tout à fait.
J'ai écouté un discours du roi des Belges, le roi Baudouin, qui parle au premier colon belge qu'il envoie dans l'ancien Congo belge. l'actuelle République démocratique du Congo. Il sait pourquoi il les envoie. Il les envoie pour les recherches. Il dit, le peuple auprès de qui je vous envoie, il dit ça aux missionnaires, ils connaissent Dieu. Vous n'allez pas là-bas pour leur apprendre que Dieu existe. Mais il vous faut aller avec la Bible, leur apprendre, amener notre religion avec une autre façon de faire et de croire. Il faut leur faire comprendre que Dieu n'aime pas la violence, que Dieu veut que tous les gens soient en gros frères entre eux et qu'il ne faut pas chercher la violence. Il faut leur dire qu'il faut apprendre à pardonner. Une fois qu'on vous enseigne ça, même quand la personne vous fait du mal, vous pouvez être désarmé parce que la Bible dit qu'il faut le pardon. Donc du coup, même dans la rébellion, ça inhibe les réactions des gens.
Oui.
Ils se font endormir, la Bible endort, la religion endort.
Tout à fait. Est-ce que Jimmy et Joël ont été victimes aussi de jalousie de par leur réussite scolaire, parce qu'ils ont une capacité d'apprendre et de se laisser éduquer incroyable. Ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent.
Surtout celui qui a vraiment beaucoup de génie, c'est Jimmy.
Et oui, tout à fait.
Est brillant, mais il n'est pas brillant comme un Jimmy, qui lui sert aussi de moteur de temps en temps dans certains domaines. Quand on se retrouve en Bulgarie, ce qui les met dans cette difficulté, c'est le fait qu'ils sont les premiers Noirs qui arrivent à Varna, dans cette ville.
Et oui.
Parce que l'histoire de Jimmy, je vous parle de Jimmy, c'est une personne qui existe, que j'ai rencontrée à Paris au milieu des années 80.
D'accord.
Si l'histoire a été romancée, l'histoire de fond est réelle.
Oui.
C'est une personne avec qui j'ai discuté pendant des heures quand je l'ai trouvé dans une situation assez délicate.
Oui.
Et là, au départ, ils arrivent, ils apprennent la langue. Ils sont dans un milieu où il n'y a pas de Bulgares. Ils sont eux avec d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, qui sont des autres pays, des autres continents. Les Bulgares ne font pas partie de ce groupe-là dans un premier temps. Mais pourtant, ils ne sont pas victimes de la jalousie de leurs collègues avec lesquels j'ai étudié la langue, mais ils sont victimes de la façon de faire des jeunes Bulgares. C'est la première fois que des Noirs arrivent en Bulgarie. Ils n'ont jamais rencontré des Noirs. Parce que les jeunes Bulgares, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'ont pas accepté. Ils avaient, malgré le fait qu'ils étaient dans une idéologie qui leur enseignait l'amitié entre les peuples, on ne peut pas empêcher à des gens d'avoir des idées arrêtées.
Oui.
Ils avaient des idées arrêtées sur Jimmy, qui était noir, qui venait d'Afrique. On leur avait dit beaucoup de choses sur les Noirs, ils en avaient des préjugés. Ils ont voulu vérifier si ce qu'on leur disait des Noirs était vrai. Ils ont envoyé des filles auprès de Jimmy pour les prendre en photo, discuter avec eux, pour savoir exactement ce qu'était ce peuple-là. Et quand les filles allaient voir Jimmy et Joël, quand ils arrivaient dans leur chambre, alors qu'ils venaient entre guillemets en tant qu'espions, ils découvraient des gens qui manipulaient beaucoup de langues, qui avaient des cafetières électriques, qui avaient des appareils musicaux qu'on ne trouvait pas dans les chambres des cités universitaires des Bulgares. Eux, ils avaient ça, parce qu'ils avaient des bourses plus élevées quand ils ont, avant d'atteindre la Bulgarie. Ils ont reçu des dons des personnes qui repartaient au Congo et qui leur ont fait don de ce matériel-là.
Oui.
Et quand les filles venaient les voir, ils leur préparaient du café, ils leur écoutaient de la bonne musique. Et les filles découvraient les musiques américaines et découvraient les musiques du monde.
Et
ils
oui.
ont vu en fait que Jimmy et Joël n'étaient pas les hommes dont on leur parlait. C'était des personnes comme tout le monde.
Oui.
Mais qui avaient des équipements qu'ils ne trouvaient pas
oui.
dans leur propre milieu où ils vivaient.
Oui.
Du coup, ils se sont intéressés à eux. C'était des jeunes assez sympas. Puis ils étaient très beaux gosses. Les filles qu'ils envoyaient pour, entre guillemets, faire l'espionnage sont tombées amoureuses de Jimmy et de Joël. Et au fur et à mesure, les filles se détournaient de leur mission. Ça devenait des relations d'amitié ou des relations d'amour. Et les jeunes qui les envoyaient ont compris ce qui se passait. C'est en ce moment-là qu'ils commencent à s'énerver et à vouloir faire la peau de Jimmy et Joël.
Oui. Vous nous faites aussi découvrir les personnages, mais aussi l'envers du décor, jusqu'à les faire partir comme des voleurs pour la Roumanie. Même s'ils ont la bonne fée avec eux, Jimmy a le don de s'attirer aussi les soucis. Donc, Jimmy réussissait tout ce qu'il entreprenait parce qu'il était bon en toutes les matières. Il ne tire jamais les leçons de ses erreurs. Pourquoi est-ce que vous l'avez créé ainsi, même s'il est comme ça dans la réalité, s'il était...
J'aime mieux parce que vous dites que je l'ai créé ainsi. En fait, je ne l'ai pas créé ainsi.
Oui.
Jimmy est ainsi.
Oui.
Parce que, comme je vous dis, c'est une personne que je l'ai...
Oui, réelle.
C'est une personne réelle. J'ai romancé vers la fin, mais Jimmy est une personne réelle. Il est comme ça.
Oui.
C'est parce que, en fait, comme je vous dis, il est presque un insoumis. Au départ, je vous ai dit que Jimmy, c'est presque un insoumis.
Oui.
Jimmy, c'est quelqu'un qui vit le monde tel qu'il conçoit. On ne les a pas fait partir comme des voleurs. Jimmy a appris qu'il y avait des menaces encore beaucoup plus importantes qui pesaient sur leur tête. Ils en avaient fait part à la direction de la faculté qui les avait accueillis, qui a presque botté entre guillemets en touche, n'a pas voulu résoudre le problème.
Oui.
Vu que la situation s'accentuait, Jimmy a préféré repartir au Congo que de laisser sa peau dans cette situation.
Mm-hmm. Sauf là, il se retrouve en Roumanie.
Il se retrouve en Roumanie parce que le Congo, à l'époque, n'avait qu'une ambassade qui chapeautait beaucoup de républiques socialistes. Et l'ambassade se trouvait en Roumanie. Donc Jimmy ne pouvait que rejoindre l'ambassade du Congo qui était en Roumanie pour qu'on lui offre le billet de retour pour qu'il reparte au pays. Sauf que quand il arrive à l'ambassade, la situation au Congo, il y a eu un coup d'État, il y a eu un ancien président qui a été tué et la situation politique au Congo est très tangente.
Oui.
Et en ce moment-là, la chargée culturelle à l'ambassade fait connaître à Jimmy que ce n'est pas le moment de repartir au Congo parce qu'il n'est pas exclu que le pays s'enfonce dans une guerre civile.
Oui.
Et il faudrait qu'il reste de toutes les façons. Ils n'étaient pas venus en Europe pour du tourisme, ils étaient venus pour les études. Le Congo n'a pas de l'argent à gaspiller comme ça.
Oui.
Et qu'il leur a proposé de rester parce que la Roumanie, chaque année, qui avait une grande coopération avec le Congo, avait octroyé des bourses aux Congolais chaque année, et il a proposé à Jimmy et Joël de rester sur place, et que sur les bourses prévues pour l'année qui allait revenir, sur les 30 bourses prévues pour la Roumanie, l'ambassade allait voir avec le ministre bulgare de la coopération pour que deux bourses soient déjà retenues d'office pour que Jimmy et Joël puissent s'inscrire à l'université en Roumanie.
À la page 183, je cite « Être à la limite de ce que l'on peut, c'est être à la limite de ce que l'on ne peut pas ». J'ai trouvé ça très très beau, parce que quand on lit le livre, c'est tellement fort. Est-ce que c'est de vous ou est-ce que vous l'avez emprunté à quelqu'un ou...
Je ne pense pas l'avoir emprunté à quelqu'un, mais je crois que c'est ma phrase.
Ah, mais
elle
c'est
est
bien.
Pas... Oui, je crois que c'est ma phrase. Quand je parle avec un ami avec qui j'ai partagé la chambre à Toulouse quand j'étais à ma période universitaire, je lui disais toujours cette phrase. Et chaque fois quand on parle tous les deux, lui, il me la ressort. Au final, je ne sais pas si cette phrase est de moi ou de lui, mais je pense que c'est ma phrase.
Très bien. C'est une manière de voir le verre à moitié vide et à moitié plein, finalement.
Oui, mais, oui, mais je pense que c'est ma phrase.
Mais la vôtre, elle est plus belle.
Oui, parce que c'est normal, elle est sortie de ma pensée. Mais lui, il apprend comme lui.
Oui.
Mais chaque fois que je lui dis, maintenant, comme il a appris même le style d'écrit qui me correspond, quand je lui dis, mais pourquoi tu ne te lances pas dans l'écriture? Elle me dit, non, mais parce que j'apprends à écrire comme toi, je ne peux pas écrire.
Mm-hmm.
C'est pour ça que je pense que cette phrase, chaque fois qu'on discute, on parle d'une situation qui est assez délicate, où on discute, on philosophe.
Oui.
On n'arrive pas à aller au plus loin de ce qu'on pense. Et souvent, il me dit, mais tu vois, Ignace, à la limite de ce qu'on peut, et on est aussi à la limite de ce qu'on ne peut pas. Et même cette phrase, maintenant, là où je travaille, il y a plein de collègues, quand ils me parlent, qu'on cherche une solution pour aider des personnes peut-être dans le domaine de l'orientation ou l'insertion, qu'on tourne en rond, et ils me disent, tu vois, Ignace, à la limite de ce qu'on peut, on est aussi à la limite de ce qu'on ne peut pas.
C'est très beau, c'est très bien dit, et je vous remercie donc de me l'avoir apprise.
Le plaisir est pour moi.
Je suppose qu'il y a de vous aussi dans ce roman. Parce que presque à un moment, j'avais pensé que même Jimmy, c'était peut-être vous, mais bon, là, vous venez de nous apprendre que non. Vous nous parlez des Noëls, vous nous parlez des réveillons. Sont-ils comme vous le racontez au Congo?
Mais le réveillon de Noël et le réveillon de l'an, les années que j'évoque, le réveillon de Noël n'avait pas une grande importance.
D'accord.
Mais le réveillon de l'an, c'était la fête.
Mm-hmm.
C'était la fête.
Oui.
Parce que c'était la fête à Brazzaville, Pointe-Noire, dans les grandes villes. La fête pourrait durer sur à peu près 3 jours et 3 nuits.
Et oui.
Là où tout le monde voulait faire respecter l'expression « être sur son 31 », qui correspond à la date du 31 décembre, parce que c'est le jour où tout le monde met son plus beau boubou, tout le monde met sa plus belle veste, toutes les femmes mettent leurs plus beaux bijoux, leurs plus beaux pagnes. En ce moment-là, même les gens, comme je vous parlais de la solidarité, quand on sait qu'à côté des gens qui sont à côté de vous, ils n'ont pas beaucoup de moyens, souvent les gens font des cadeaux aux autres. C'est un peu d'argent, ou envoyer un poulet, ou envoyer une moitié de gibier. Parce que ce jour-là, tout le monde doit bien manger, doit bien boire, doit bien s'habiller.
Oui, c'est vraiment la
grande fête. Hein.
Oui.
C'est la grande fête. Tout le monde est sur son tantin dans la mentalité congolaise ou la société congolaise,
oui.
La culture congolaise. C'est le must des fêtes.
Mm-hmm. Jimmy a connu l'époque de Ceausescu. Mm-hmm. C'était une période dure, certainement. Est-ce que ça a été aussi très dur pour Jimmy, le génie?
Dur en termes, quand c'était dur là-bas, c'était dur en termes de liberté d'expression, c'était dur en termes d'approvisionnement en matériel. Et c'était aussi dur parce que Ceausescu, contrairement aux autres satellites de l'URSS, ne voulait pas mettre son pays à la botte des soviétiques.
Oui.
C'est-à-dire que là-bas, chauffer les chambres, c'était chauffer le maximum, c'était à 17 degrés, parce qu'il ne voulait pas, par exemple, faire venir du fioul avec les prix proposés par l'URSS, parce qu'il ne voulait pas devenir comme une colonie de l'URSS. Sur le plan, quand l'hiver arrivait, la Roumanie, ce n'était pas un pays vraiment développé. Sur ce point-là, il souffrait, oui. Jimmy pouvait, donc, devait souffrir deux fois. Mais après, sur tout ce qui est de la liberté d'expression, Jimmy, tant qu'il joue, il s'en fout. C'était un régime qui fonctionnait comme celui du Congo. Je crois que quand il avait ce qu'il a dit, il le disait Jimmy. En général, il s'exprimait par la musique. Et sur le plan de la nourriture, le plan matériel, Jimmy a appris à faire du marché noir,
à
vendre des articles au marché noir avec son ami Joël. En général, parfois, il ne vendait même pas, il donnait.
Oui.
Parce que Jimmy, c'était ça aussi Jimmy. De la souffrance en tant que telle, non. Jimmy, en Roumanie, était une personne qui était heureuse.
Oui. Pourquoi Jimmy ne s'est pas dirigé vers des études de musique? Parce que c'est sa vie, la musique.
Ah, là, vous me posez une question qui est pas mal. Je vais vous faire une perspective qui va ressembler à une confidence. À l'époque de Jimmy, les jeunes qui se tournaient vers la musique, on les considérait au Congo comme des marginaux.
Ah d'accord.
Ah oui. Quand on avait un enfant qui commençait à faire la musique, on pensait qu'il tournait mal. Surtout quand il avait des dons intellectuels, on parlait, on pouvait même, les parents pouvaient dire, mais cet enfant est maudit. Parce que la musique, à l'époque, ne représentait pas ce qu'elle représente aujourd'hui.
Oui,
l'enfant heureux, même le football, on ne pouvait pas laisser un enfant se diriger vers le chemin du football, parce que ce n'était pas ça l'avenir.
Oui.
Il n'y avait pas dans le football, peut-être à l'époque, les millions comme on en compte aujourd'hui, mais il y avait le football amateur. Un enfant qui, quand il rentrait à l'école, au lieu d'étudier ses leçons, allait jouer dehors dans la rue au football, alors que les parents attendaient beaucoup de lui, ce n'était pas forcément la chose qui était bien vue. Et c'était encore pire pour la musique. Donc Jimmy, à l'époque, je crois que l'idée d'aller faire la musique ne pouvait même peut-être pas flirter son esprit.
Oui.
Afin de devenir un musicien professionnel, parce que ce n'était pas qu'on pouvait encourager les jeunes gens.
Eh bien, on va faire une autre petite pause musicale. Qu'est-ce que vous nous avez choisi comme musique?
Une musique d'un groupe Zaïwa, un groupe congolais, qui s'appelle Viva la Musica, de Papa Wemba. Je crois que j'avais déjà choisi ce musicien parce que je l'adore. Et c'est cette musique que j'ai choisi pour faire coller cette musique au roman dont le titre est Proclamation. Dans la même histoire que Jimmy, il n'avait pas réussi à avoir les diplômes qu'il était venu chercher en Europe et a préféré tourner en rond en Europe.
D'accord. Et donc, on l'écoute.
Kaba vacance Batuna kabango Boni wana wana ayaka kate Tanga etanie Boka kamoye Baboti boyo kalisi dwaleo Gana putu kela site Wana omoni a succès Zoka na putu eza examen Jour à proclamation à Kinshasa Jour à proclamation à Sefa Badeko baliga toyokana Tozali ba passager toyokana Stanley ayaka na kibio akuta na kana kopa na kayoyo koko galiba na koyana kibie jura koe dako nanga ezana koe kamwa esika ekoti saka boko ezangate u ezangate ezangate Baninga tura ture Banzele ango tura ture Alendeche Strabo Seigneur Kosa Edibana Le pape de la religion qui t'aime Le Kurumbio Est-ce qu'il y a le Bagibale laye Tant que j'ai du Versace Azali Il y a le Bagibale laye te Vous me voyez dans le Allez chéri vous gratana Tous les cas Kokata sefa jour après oh Nakolata nangai ensemble courant Et ainsi hier au comantino Badive fula pungue Meta ato chaber moana parie
Vous êtes bien avec Gisèle dans Page après Page. Je suis en compagnie de Ignace Mvani qui nous présente son roman « Même les belles lumières s'éteignent ». C'est aux éditions Chiado, paru en 2016. Jimmy, est-ce qu'il a été frustré quelque part de, ou est-ce qu'il s'est tourné plus vers la musique parce qu'il n'a jamais pu faire ses études de médecine qui étaient si chères à sa mère ?
Et je pense que non, parce que Jimmy a commencé à jouer à la musique quand il a rencontré une personne dont je parle dans le livre à Brazzaville.
Oui.
Il y a quelqu'un qui essaie de lui donner une espèce de conscience sociale ou conscience politique, si on peut l'appeler ainsi, qui s'appelait Kabongo. À l'époque, Jimmy n'avait pas encore eu son baccalauréat, donc il n'avait pas encore su qu'il ne ferait pas la médecine. Alors, pourtant, à ce moment-là, à cette époque-là, il jouait déjà très bien à la guitare.
Oui.
Et il en faisait vraiment sa distraction. Par rapport aux jeunes de sa génération, de son âge, qui passaient beaucoup plus de temps à jouer au football dans la rue, Jimmy passait beaucoup plus de temps enfermé dans sa chambre pour jouer à la musique. Mm-hmm. Et il ne savait même pas qu'il n'allait pas réussir à faire la musique. Ce n'est qu'après l'admission à son baccalauréat que les listes des boursiers sont affichées, qu'il se rend compte qu'il n'a pas été orienté vers la médecine, qui est son premier choix, mais vers les études en électronique, parce que le Congo venait d'acquérir des avions de chasse des MiG-17 à l'époque.
Oui.
Et il fallait trouver des électroniciens pour éventuellement intervenir sur les pannes à venir.
La politique roumaine, est-ce qu'elle était similaire, entre parenthèses, à celle de l'Amérique? Parce que c'était les débuts de la musique rock, c'était l'explosion de ce nouveau courant musical. Et donc Jimmy a appris cette nouvelle vague et il a vraiment adhéré à cette musique.
La politique n'était pas similaire, mais sauf que paradoxalement,
oui.
La société américaine a reproché, parce que le rock à l'origine, enfin le rock, ses origines, c'est une musique qui est issue du blues et du jazz. Le rock est une musique noire américaine,
oui.
À la base. Quand cette musique a été lancée, c'était à l'époque de la ségrégation raciale aux États-Unis, les Blancs américains ne souhaitaient pas que leurs enfants s'imprègnent d'une musique qui sortait des quartiers noirs des villes américaines.
Oui, oui.
Donc, ils empêchaient parce que, entre guillemets, c'était la musique de ce qu'on peut, on appelle dans le langage populaire ici, la racaille. La musique est noire, les Noirs sont mis au banc de la société.
Oui.
Les enfants des Blancs ne devaient pas jouer cette musique qui, comme on le dit, ça reste une musique, donc c'est un langage universel. En s'imprégnant de cette musique-là, ils pouvaient se mettre à avoir dans leur relation des personnes qui étaient de couleur.
Oui.
Donc, dès le départ, ils l'ont interdit pour cette raison-là. Mais au fil des mesures, quand Elvis a adopté cette musique, l'a propulsé en haut de la scène, ils n'ont pas plus pu contenir la jeunesse. Parce qu'en général, que ce soit en Amérique ou pas, les jeunes arrivent toujours à imposer leurs goûts musicaux dans la société.
Oui, tout à fait.
Donc du coup, la musique qui était le rock, qui était bannie des familles américaines, mm-hmm. mais qui s'est relancée dans les campus universitaires, parce que les jeunes ont voulu au final l'adopter contre l'avis de leurs parents, a connu presque le même sort en Roumanie. Mais en Roumanie, le rock y a été interdit. Mais pas par, c'est pas la société qui le repousse, c'est le gouvernement qui le considère, au même titre comme que la drogue, comme un mauvais produit importé des pays capitalistes.
Oui. Comment est-ce que est venue cette idée du complot du père de Stéphania, libérer Joël, mais expulser Jimmy?
Parce que Joël et Jimmy, c'était la personne que tout le monde connaissait. C'était, mm-hmm. c'était une célébrité. Au départ, Stéphania, qui va devenir plus tard la femme de Joël, est amoureuse de Jimmy, qui avait un regard sur elle, mais qui a préféré ne pas s'intéresser à elle, pour des raisons, pas de beauté ou de sentiment, mais parce que Jimmy sait que à la fin de ses études, il rentrera chez lui au pays. Il est dans une famille très, très modeste, où il pense qu'il aura trop de responsabilités, il aura une situation, mais ne pense pas forcément avoir la possibilité d'offrir une vie entre guillemets de luxe,
oui.
parce que Stéphania est une fille de la nomenclature roumaine.
Oui.
Il pense qu'à l'amener au Congo, il ne lui donnera pas l'aisance matérielle qu'il faudra, et comme il risque que le mariage après, il risquera de battre de l'aile.
Oui.
Comme il s'est appuyé sur cette situation-là, il n'a pas voulu s'engager avec Stéphania. Plus tard, c'est son copain Joël qui va l'épouser.
Oui.
Pourquoi Jimmy est expulsé? Parce que il n'est pas exclu, je pense, que le père de Stéphania a fait suivre Jimmy, ou bien le groupe dans lequel il évoluait, et connaissait l'influence que Jimmy avait ou pouvait avoir sur Joël. Il s'est dit qu'en expulsant Jimmy, même si sa fille qui se met ensemble avec Joël, Jimmy n'aura plus assez d'influence sur Joël pour pouvoir lui imposer leur départ, entre guillemets, lui imposer leur retour au Congo. Parce que ce qu'il veut, lui, le père de Stéphania, c'est que sa fille ne rentre pas au Congo.
Oui, tout à fait.
Il pense qu'il fallait séparer la mauvaise graine de la bonne.
Oui.
Et pour lui, Jimmy, c'était un type, une personne assez influente, et donc une mauvaise graine pour lui, qui pouvait imposer le retour au Congo
oui.
à son ami.
Jimmy va devoir encore repartir une fois de plus, donc sous cette influence, il va partir pour l'Allemagne. Pourquoi est-ce que Jimmy est passé par l'Allemagne au lieu de venir directement sur Paris peut-être? Et en plus, pourquoi il a vécu cette déchéance? Parce que là, il touche le fond en Allemagne. Il n'y a pas plus fort que fond.
Ben oui, Jimmy, en France, il lui fallait connaître quelqu'un en France. Mais l'Allemagne, il était souvent venu. Quand il venait acheter du matériel avec Joël, il a beaucoup fait des voyages en Allemagne. Donc, il connaissait un peu l'Allemagne. Et quand il part sur le premier endroit qui lui vient à l'esprit. C'est un homme perdu, Jimmy. Ils sont emprisonnés tous les deux avec Joël. Stéphanie a fait pression sur son père pour qu'on libère Jimmy et Joël. Son père refuse de libérer Jimmy. Elle fait du chantage au suicide. Comme sa mère à Stéphania s'était déjà suicidée, son père a pris peur et elle a réussi à lui imposer la libération de son mari. Joël est libéré et une fois qu'il est libéré, Joël, comme il connaissait les membres de la sécurité avec lesquels il donnait des produits qui revenaient du pays de l'Ouest, pays capitaliste, il avait déjà un réseau. Il allait voir les membres de ce réseau pour essayer de sortir Jimmy. Et ceux qui acceptent de sortir le font à une seule condition, que Jimmy, s'il sort, qu'il ne reste pas en Roumanie 24 heures. Il faut qu'il parte avant que le père de Stéphania, qui est un homme important, proche de Ceausescu, s'en rende compte. Donc quand il sort l'Allemagne, il avait prévu d'y aller pour acheter du matériel.
Oui.
Donc, Jimmy, qui était resté au Congo, lui avait demandé d'acheter une tronçonneuse électrique. Donc, ils avaient prévu aller en Allemagne. Ils avaient les billets pour l'Allemagne. Comme il avait le billet pour l'Allemagne, le visa pour l'Allemagne, cette direction s'offrait le plus facilement à lui. C'est pour ça qu'il se retrouve en Allemagne.
D'accord. Jimmy est un sans-papier clandestin. Il est au fond du trou, seul, de plus en plus addictif à l'alcool, peut-être aussi à la drogue. Pourquoi Jimmy s'est prostitué comme il l'a fait ?
Il s'est prostitué en Allemagne. Et la question pourrait être posée peut-être autrement. Pourquoi Jimmy a eu cette vie qui n'était pas prévue pour lui ?
Oui.
Jimmy a eu cette vie, il s'est prostitué parce qu'un ventre affamé, ça cherche toujours de quoi se nourrir.
Eh oui.
Jimmy s'est retrouvé sans argent. Il a commencé à jouer dans la rue en Allemagne. Il faisait la quête. Comme il avait une très belle voix, il jouait et gagnait beaucoup d'argent. Mais sauf qu'à un moment donné, comme il s'était sans papier, il a voulu se faire prendre par la police. Il a réussi à s'en échapper. Et à partir de là, il a appris parce qu'il savait que si on attrape sa destination sur le Congo, et vu ce qu'il pensait de lui-même, parce qu'il pensait que c'était une personne qui était plus sans avenir, il le savait, mais qu'au Congo, il sera une source de moquerie, parce que le génie n'a pas réussi. Donc il a échappé à la police et ne voulait plus jouer. La seule façon qu'il a trouvée, c'était de se prostituer pour vivre, se payer un taudis.
Oui. Et là, Jimmy, au bout de sa galère, réussit à partir pour Paris. Et donc Jimmy se tire toujours de ses ennuis. À un moment, là, vous vous amusez de ces personnages quand vous écrivez ?
Ben oui, je prends du plaisir à m'amuser. Parfois, je me moque d'eux, parfois, je les valorise, parfois, je les rends insensibles. J'essaie de jouer avec les personnages. Je leur donne souvent, je leur donne des rôles qui ne vont pas trahir la suite de mon récit. Jimmy, je m'amuse avec lui. Et oui, et comme quand il rencontre la personne qui va l'aider à venir en Europe, qui est aussi en France, qu'il rencontre par le biais d'une camarade qu'il a rencontrée sur place.
Oui.
Parce que le problème de Jimmy, c'est qu'il se prostituait et quand il est allé dans un restaurant de Berlin, un restaurant tenu par la communauté noire, il a écouté une chanson qui parle d'une histoire. La chanson s'appelle Mario. C'était une chanson à l'époque très à la mode en Afrique centrale, qui parle d'une personne, un jeune homme qui était sorti avec une femme qui était assez âgée, et il restait longtemps chez cette femme-là, il regardait les autres femmes, et cette femme-là en a eu marre, et l'a mis dehors, il était obligé de repartir chez ses parents. Quand il est arrivé, il avait beaucoup grandi, et le lit qui était pour lui ne lui convenait plus parce que les pieds dépassaient le lit. Et Jimmy, quand il a écouté cette musique, il s'est rendu compte qu'en fait, on parlait de sa situation. Et là, il a dit, moi je dois prendre mon destin en main, je ne vais pas finir comme Mario. Et c'est en ce moment-là qu'il quitte la femme et va aller habiter à un moment donné auprès d'une camarade qu'il a rencontrée en Allemagne. Et au final, il se rend compte que sa vie s'empire là-bas, il n'y a pas d'issue. Il rencontre une personne par l'intermédiaire de cette camarade-là qui lui donne ses papiers et qui lui donne les moyens pour pouvoir quitter Berlin. Si à Paris, si tu dis ton nom, mais je suis, on va comprendre que tes papiers, tu les as volés. Parce que l'identité ne répond pas à ça. Il faut que tu retiennes mon nom. Marcus, tu t'appelles Marcus, pas Jimmy. Et en ce moment-là, il dit, mais tu mets une cravate bleu, blanc, rouge, tu t'habilles très bien. Comme ça, quand tu passeras à la frontière, tu n'auras pas l'air d'un clandestin. Et c'est dans ces conditions-là qu'il arrivera à Paris.
D'accord. Donc à Paris, il sort la tête hors de l'eau, puisque là, il va trouver un travail, il va pouvoir reprendre des études. Et là, à ce moment-là, la magie de l'écriture fait que le lecteur croit. Et il a confiance dans Jimmy, puisque là, maintenant, il va être un monsieur respectable et respecté. Mais il a toujours ce penchant pour l'alcool et la drogue.
Oui, parce que l'alcool et la drogue, on n'en parle pas comme ça une fois qu'on rentre dedans. Jimmy arrive et il est accueilli il a pris contact avec un cousin à lui qu'il a connu brillant et qui l'accueille. Quand il l'accueille, il pensait que Jimmy avait fini les études et il venait, comme le font certains étudiants, ils finissent dans les pays de l'Est avant, ils allaient travailler dans les pays occidentaux pour avoir un peu d'argent, s'équiper en voiture, en matériel électronique et tout ce qui pouvait leur être utile une fois rentré au pays. Il pense que Jimmy est venu dans ce cadre-là. En fait, dans une conversation avec Jimmy, il se rend compte que Jimmy n'est pas dans cette situation, que Jimmy est wanted, un recherché. C'est quelqu'un qui est perdu. Oui. Et il essaie de lui remonter le moral. Il essaie de remonter le moral même avant. Jimmy boit toujours. Ce n'est que plus tard, au gré des situations, que Jimmy arrive à travailler clandestinement avant d'avoir ses papiers.
Oui. Vous avez été dans toutes ces grandes villes que vous nous avez parlé dans ce roman ou pas?
Ça va vous surprendre. Non, je vous parle de ces villes-là en ayant fait énormément de recherches.
D'accord.
La seule ville dont j'ai été, de toutes les villes dont je parle dans le livre, c'est que Paris.
D'accord. Est-ce que c'est un peu votre cursus qui vous a guidé pour faire cette histoire ou est-ce que vous vous êtes juste référé à tout ce que vous a dit Jimmy?
Non, quand j'écrivais le livre Jimmy, j'ai essayé de prendre contact avec lui. Parce que quand, à un moment, l'an 2001, si mes souvenirs sont bons, je l'avais revu Jimmy à l'époque, j'étais contractuel dans l'éducation nationale, j'enseignais sciences naturelles, SVT. Mmh. À l'Académie de Versailles, du côté de Paris. J'ai rencontré Jimmy, on a reparlé, on s'est échangé des coordonnées. Quand j'écrivais le livre, Jimmy, je ne l'ai plus retrouvé, je l'avais perdu de vue.
D'accord. Est-ce que pour tout ce qui touchait le médical aussi, vous avez pris des renseignements? Comment ça s'est passé?
Sur le médical, bon, je suis de formation biochimiste.
D'accord.
Donc quand je vous parle des enzymes...
Oui, c'est plus facile.
C'est plus facile, je suis dans mon domaine. Mm-hmm. J'ai fait des études assez importantes en biochimie. J'ai aussi un certificat en analyse biomédicale. Donc quand je vous parle des enzymes, de tous ces éléments qu'on détecte pour diagnostiquer les maladies, je suis dans mon champ d'action.
D'accord. On ne va pas dévoiler la fin, on va la laisser découvrir aux lecteurs. Oui. Et on va leur laisser découvrir aussi ce grand génie qu'est Jimmy. Son parcours, ses amis. Est-ce que vous avez eu du mal à mettre un point final à cette histoire?
J'ai eu du mal parce que je ne voulais pas la terminer. Comme vous dites, je n'ai pas envie de dévoiler la fin.
Oui.
Je n'ai pas voulu terminer cette histoire comme elle s'est terminée.
Oui. D'accord?
J'ai refait appel au dernier moment dans le livre à une des conquêtes de Jimmy, entre guillemets, qui s'appelle Virginia,
oui,
pour essayer d'expliquer, essayer de construire la fin de ce livre. Et dès qu'il a été achevé, je ne voulais pas finir l'histoire comme ça.
D'accord.
Il y a des personnes qui m'ont dit, mais c'est dommage que la fin soit, c'est là, ça aurait pu, on a été triste. Mais oui, parce que j'ai voulu que ça soit comme ça. C'est une fin que j'ai voulu. J'ai voulu que la fin soit celle-là à ce livre. Et même le titre, même les belles lumières s'éteignent.
Oui.
C'est devenu le titre du livre. Et une des phrases de Stéphania que je retire d'une lettre qu'il adresse à une copine pour lui parler de ce qu'avait été ses sentiments pour Jimmy.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et je trouve que cette fin, finalement, elle colle bien à Jimmy, parce que, eh bien oui, toutes les belles lumières s'éteignent également, et en plus, ça ne pouvait que, comme il était tellement addict à l'alcool et à la drogue, ça ne pouvait être que cette fin, quelque part.
Ben oui, oui, la fin de Jimmy.
Mmh. Nous allons nous séparer, Ignace, c'est déjà la fin de page après page avec votre livre « Toutes les belles lumières s'éteignent » paru aux éditions Chiado en 2016. Merci pour ma part de m'avoir fait faire tout ce périple, tout ce grand voyage depuis chez moi finalement. J'ai bien voyagé. C'est un livre qui est plein d'humilité et plein d'humanité, il me semble à mon goût, une très belle leçon de vie. Qui s'enseigne si on analysait nos savoirs et si on combinait aussi nos dons naturels à ce savoir. La vie nous enchanterait, j'en suis certaine. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti en lisant votre livre. Je vous laisse le mot de la fin.
Le mot de la fin, j'ai été content de faire cette émission avec vous. J'ai été content de communiquer avec les auditeurs. J'espère avoir la possibilité de revenir vers vous,
oui,
pour parler d'un autre de mes ouvrages et pour vous faire continuer à vous faire découvrir le monde.
Oui, tout à fait. Je vous dis merci beaucoup. À bientôt, Ignace. Et alors, merci pour cette belle lecture. J'espère que nos auditeurs pourront justement accompagner cet été avec ces belles écritures que vous nous faites. Et vous nous parlez un peu de cette musique pour nous quitter?
Oui, je vous parle d'une autre musique, c'est Racine, une chanson du groupe Extra Musica, un groupe congolais,
oui,
pour dire que peu importe si on met un bel arbre, même si on lui donne de la lumière, et beaucoup d'engrais, s'il est mis dans un pot où ses racines ne peuvent pas vraiment s'étendre comme elle désire, cet arbre-là ne sera jamais l'arbre qu'on aurait connu s'il avait été laissé en pleine nature.
Très bien, merci beaucoup Ignace, et puis on se dit à bientôt.
À bientôt Gisèle. Tosamelaka poto tonga kabaninga te kasi poto kota lula amede bakayuko kostika la pointe du savoir-faire. Est-ce que banatina asusu basali bakita na roma koko asusu basali bakita na roma koko asusu banja kopera aila sela se asusu bakita ni asusa takita.
Page après page, une rencontre intimiste avec un auteur.